Chapitre 9. Lorsque, après leur mystérieuse évasion de chez le père François, nos deux aventuriers se virent dans la grande caisse que vous savez, au milieu du hideux personnel que je vous ai décrit, et quand, faute d'habitude, ils furent d'abord comme asphyxiés par l'odeur pestiférée qui résultait de cet entassement d'hommes, d'animaux et de grossiers comestibles, ils regrettèrent au fond de l'âme de s'être laissés prendre aux belles promesses du marquis de la Galoche. Toutefois, ce premier dégoût surmonté, ils trouvèrent un certain plaisir de nier à cette manière de continuer leur grand voyage autour du monde, ainsi que Jean-Paul avait appelé leur pénible escapade. Ce fut pour ce dernier surtout une sensation presque agréable que d'être couché là, de tout son long, à sa guise, sur une litière de paille, n'ayant rien à faire et d'être comme bercé par de nombreux chaos, en se sentant rouler sans savoir où. Jean-Paul fermait les yeux, se laissait aller comme un mort à ce bien-être de fainéantise, à ce mélange de repos absolu et de mouvement sans cesse. De temps en temps, pour varier ses plaisirs, il rouvrait à demi les yeux, se soulevait, et la tête appuyée sur sa main, regardait machinalement par l'espèce de petite lucarne qui se trouvait à son niveau. Grâce à la marche de la charrette, et sans qu'il eût même la peine de promener son œil sur la campagne se déroulait peu à peu, et les champs passaient, les maisons passaient, et les arbres passaient, et les plus rapprochés surtout, ceux qui bordaient la route, passaient vite et semblaient courir. C'était comme une lanterne magique. Ce fut au milieu de cette fantasmagorie d'objets qui traversaient rapidement le cadre immobile du mobile tableau qu'il lui sembla distinguer le grand squelette que vous connaissez, cet être fantastique qu'une cause mystérieuse lui faisait rencontrer toujours. Il crut d'abord que c'était un des peupliers du chemin, mais une seconde apparition du fantôme ne lui laissa plus aucun doute. C'était lui, c'était le géant. Jean-Paul eut peur, il baissa vivement la tête et n'osa plus regarder au dehors. D'autres préoccupations vinrent alors le distraire. L'intérieur de la voiture présentait un spectacle qu'il est impossible de peindre. Le marquis de la Galoche, à demi couché sur un matelas, les jambes croisées, l'air grave comme un pacha qui préside son conseil, fumait une longue pipe dont l'élastique tuyau faisait 10 fois le tour de son corps avant d'arriver à sa bouche. La pipe était placée dans son gousset. Il appelait cela un poêle portatif. De temps en temps, il avalait de longues gorgées d'eau-de-vie. La reine des îles Salmigondi, assise en face de lui, allaitait son dernier principicule et buvait de l'eau-de-vie aussi. Quant aux 7 autres enfants, ils étaient si bien enchevêtrés les uns avec les autres qu'on aurait pu distinguer au premier coup d'œil si telle jambe appartenait bien à tel corps, si tel corps se terminait bien par telle tête, si telle tête conduisait bien à telle main. Cet état de choses devait nécessairement occasionner de continuelles réclamations. « Oh, la jambe ! Oh, le bras ! Laisse-moi donc retirer ma jambe ! Et non, c'est la mienne ! Laisse-moi donc retirer mon bras ! Tiens, je croyais que c'était le bras de Coco. Fifi, veux-tu rester tranquille ? Tu es toujours à remuer et à m'enfoncer ton coude dans les côtes. Oh là là ! Oh là là ! Fifi qui vient de me mettre son doigt dans l'œil ! » Et alors les injures commençaient. Puis venaient les coups de poing, puis les coups de pied, puis les tire-cheveux, puis les bousculements universels. Le marquis de la Galoche était toujours obligé de se servir du fouet pour rétablir la tranquillité. Mais c'était à recommencer à chaque instant, et il arriva plus d'une fois que, sans faire partie des combattants, Jean-Paul et Petit Jacques attrapèrent quelques pinçantes éclaboussures du fouet. Car le marquis de la Galoche n'était pas très impartial dans ses justices distributives. Il frappait toujours au hasard, s'en remettait à la justice divine du soin de diriger équitablement sa lanière. Enfin, le grand Panouille, qui cumulait les fonctions de cocher, de palefrenier et de paillasse de la troupe, était assis sur le devant et conduisait. Soit insouciance, soit confiance en ses chevaux, son ivresse même, car il était le seul qu'en raison de son âge, le marquis de la Galoche admit régulièrement à la participation de sa bouteille d'eau-de-vie, toujours est-il qu'il s'en remettait trop complètement à la providence du soin d'éviter les ornières. La sagesse dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Or Panouille ne cédant pas, le ciel ne l'aidait pas, et il arriva qu'après avoir accroché, je ne sais combien de fois, les charrettes qui passaient et manquaient de verser dans je ne sais combien de fossés, la voiture grimpa mal à propos sur un gros tas de pierres qui bordent les grandes routes, ce qui la fit s'arrêter, pencher, hésiter et tomber sur le flanc. Heureusement, la boue qui était épaisse en cet endroit amortit la culbute. On en fut quitte pour quelques contusions. Mais l'accident avait causé un étrange bouleversement dans la ménagerie. Ce furent des cris, des hurlements, des aboiements, des vociférations d'hommes et d'animaux à faire dresser les cheveux sur la tête des passants. Celui des culbutés qui cria le plus fort, ce fut naturellement Jean-Paul. Il était tombé sur le singe et se sentait pincé par cet animal, peu patient de sa nature et qui, depuis le jour de la foire, lui gardait, comme il vous en souvient, une implacable rancune. Il est juste de signaler aussi un vieux loup cervier qui, se voyant couché sur le dos dans sa cage, protestait énergiquement contre cette position peu commode même pour un loup. Enfin, après une demi-heure de cette bruyante confusion, il se trouva beaucoup d'étrangers sur la route, parmi lesquels un homme d'une taille démesurée et d'une force prodigieuse, qui à lui seul contribua plus que tous les autres à remettre la voiture sur ses quatre roues. Quel était cet homme ? On n'en sut rien, car aussitôt que la besogne fut faite, il disparut. La troupe offrit alors un incroyable aspect. Albi, mains, visage, tout était couvert de boue. On se lava au ruisseau voisin, chacun reprit ensuite sa place, et l'on se remit en route, un peu plus propre que d'habitude. À quelque chose, malheur est bon. Cependant, il commençait à se faire tard, et nos malheureux touristes n'avaient encore rien mangé de la journée. Plusieurs petites distributions de comestibles avaient été faites, aux animaux d'abord, car dans une ménagerie bien ordonnée, les animaux marchent toujours avant les hommes, et ensuite aux enfants du marquis, sans que Jean-Paul ni son camarade, à qui tant de belles promesses culinaires avaient été faites avant leur départ, s'en fussent vus tendre encore la plus légère parcelle. Ils tombaient d'inanition et regrettaient sincèrement la bonne soupe aux choux et le succulent porc frais qu'ils avaient quitté avec tant d'ingratitude. Enfin, la reine des Salmigondis daigna prendre la parole dans la langue particulière aux personnes de sa qualité, et d'une voix dont l'enrouement prouvait l'influence gutturale de l'eau-de-vie, adressa ce touchant discours à son peuple affamé. « Enfants, il n'y a pas gras aujourd'hui. Il ne faut pas vous attendre à faire bombance avant la représentation de ce soir. Encore même, si la recette ne donne pas, bernique. Or donc, pour le quart d'heure, nous ne possédons qu'une demi-livre de pain et un morceau de saucisson. Il n'y en aurait pas pour tout le monde, et voilà pourquoi, afin de ne pas faire de jaloux, je garde tout pour moi. Mais pour ce qui est de l'eau-de-vie, c'est différent. En voici une bouteille presque pleine. Bourrez-vous-en. Je n'en veux plus. C'est nutritif, c'est léger, c'est un véritable velours pour l'estomac. » Jean-Paul et Petit Jacques ne se firent pas répéter l'invitation de Sa Majesté, car ils eussent mangé des pierres et bu du vinaigre des quatre voleurs. Quand leur tour fut venu, et il vint le dernier, ils prirent donc avidement leur part du velours liquide de Sa Majesté. Mais le poivre que contenait cette grossière boisson leur incendia le gosier, en même temps que l'alcool leur grisa le cerveau. Leur palais devint brûlant et sec, et leurs yeux flamboyèrent. Ils eurent un très violent accès de fièvre. Sur ces entrefaites, on arriva dans le village vers lequel on s'était dirigé. L'écurie du Cheval Blanc fut le lieu qu'on choisit pour salle de spectacle. On y déposa carrément quelques vieilles tapisseries, on plaça sur deux rangs, au fond, les cages d'animaux, on dressa en avant l'appareil de la corde à danser, la table autour de gibecière et le tapis aux cabrioles. Et enfin, à l'extérieur, au-dessus de l'entrée de ce théâtre, qu'on ferma d'un rideau mobile, de couleur rouge, on éleva des tréteaux pour ce qui s'appelle la bagatelle de la porte. Cela fait, on songea sans retard à donner de la publicité à l'arrivée de la troupe, car il fallait gagner de quoi souper. Le marquis de la Galoche fit habiller Jean-Paul en Jocris et Petit Jacques en Cassandre. Ce double costume avait été fait pour de grandes personnes, si bien que nos travestis avaient l'air d'être vêtus de sacs. La queue rouge de Jocris tombait jusque sur les talons de Jean-Paul, et la culotte de Cassandre descendait à Petit Jacques sur ses souliers, comme eût pu faire un pantalon. Ils étaient très plaisants à voir. Lorsque cette toilette fut terminée, qu'on eût saupoudré leurs perruques de farine et barbouillé leurs figures de fards de différentes couleurs, le marquis de la Galoche s'avisa de la plus étrange fantaisie qui puisse passer par la tête d'un homme. Mais ses nombreuses libations d'eau-de-vie l'avaient mis, comme toujours, dans un état d'ivresse à vouloir les choses les plus déraisonnables et à n'admettre aucune remontrance. Il dit donc aux deux apprentis, dans son argot de saltimbanque, « Or donc, mes jeunes Talmas, nous allons annoncer à tout l'univers la brillante représentation de ce soir. Il ne s'agit pas d'avoir ses mains dans les poches. En avant la musique, en avant la grosse caisse et tout le tremblement. Toi, Panouille, tu vas prendre ton violon. Toi, Jaco, c'est ainsi qu'il nommait Petit Jacques, tu vas te mettre cette grosse caisse sur le dos et ce pompon au coude droit. Très bien. Et maintenant, comment, ce n'est pas tout ? S'écria Petit Jacques. Voyez-vous le gaillard, reprit le marquis de la Galoche. À présent qu'il s'est bien repu de 3-6, ce vrai nectar des dieux, le fainéant voudrait se croiser les bras. Minute, mon garçon, minute. Il faut que chacun se rende utile à la société suivant sa capacité individuelle. Je ne connais que ça. Continuons. Et maintenant, disais-je, tu vas te mettre ce chalumeau sur l'estomac, ces grelots aux pieds, ces cymbales entre les genoux, ce triangle au coude gauche, cette guitare à la main et ce flageolet dans le nez. Très bien. Et maintenant, remue la tête, les coudes, les genoux, les doigts, les pieds, les mains, et souffle, souffle. Bien, très bien. Démène-toi comme un petit possédé. Très bien. Te voilà maintenant un des premiers virtuoses de la terre et même de l'Europe. On devine quelle horrible charivari cela devait faire. Petit Jacques fut lui-même effrayé de s'entendre. Le marquis de la Galoche se tourna ensuite vers Jean-Paul, qu'il appelait Jeannot, au grand déplaisir de celui-ci. « À ton tour, mon garçon, lui dit-il, et ne sois pas jaloux de ton camarade. Son orchestre te reviendra une autre fois, car j'aime qu'on soit propre à tout et qu'on se rende utile à la société dans toutes les carrières. En attendant, tu vas prendre cette clarinette. Et que voulez-vous que j'en fasse ? Ce que je veux que tu en fasses ? Eh mais ce n'est pas une perche à araignée, j'imagine. Tu vas en faire ce que l'on fait d'une clarinette. Mais je ne sais pas jouer. » Erreur, mon garçon, tu dois savoir en jouer. La clarinette est un instrument mélodieux et facile dont tout le monde sait jouer naturellement. J'ai vu des enfants qui venaient de naître et qui vous manœuvraient cela comme père et mère. Mais je vous dis, silence, je n'aime pas les réflexions. Tu vas jouer de la clarinette. Mais encore, tu t'obstines. Il est possible au fait que la nature t'ait traité en marâtre sous le rapport de cet instrument. Mais rassure-toi, je vais t'enseigner la chose. Et le marquis de la Galoche distribua à Jean-Paul quelques taloches en guise de leçon. Voilà comme je forme les virtuoses, moi. C'est une méthode que je tiens du Conservatoire de Paris. Maintenant, réponds sans crainte, sais-tu jouer de la clarinette ? Jean-Paul crut devoir se contenter de la première leçon. Il souffla de toutes ses forces dans l'instrument et en tira ce qu'on appelle des canards, c'est-à-dire des sons criards qui firent grincer des dents le loup-cervier lui-même. Le marquis de la Galoche n'en demandait pas davantage. « Bravo ! » s'écria-t-il. « C'est une méthode infaillible. Les clarinettes du grand opéra n'ont pas été formées autrement. Tu ne tires encore qu'une seule note de l'instrument, c'est juste, ou plutôt c'est faux, mais c'est assez, car les personnes qui aiment cette note en seront d'autant plus enchantées. Et maintenant, en avant, marche !» Le marquis prit sa trompette, et la troupe des virtuoses s'étant juchée sur la voiture, se mit à parcourir le village en exécutant une symphonie dont rien ne peut donner l'idée, si ce n'est la musique prétendue pittoresque et dramatique de certains compositeurs contemporains, lesquels proclament que Mozart, Haydn, Rossini sont des génies insuffisants, que la mélodie est une qualité accessoire, sinon parfaitement inutile, et que le vrai beau, c'est le lait. Tous les chiens du pays prirent part au concert de nos artistes improvisés. Ce fut un tapage infernal dont les habitants, hommes et caniches, conserveront longtemps l'abominable souvenir.